Entre les lignes, Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, avec Annick Chuin, je reçois Quentin Mouron, auteur d'un roman paru aux éditions La Grande Ourse, Trois gouttes de sang et un nuage de coke. Soyez les bienvenus, bonjour. Lorsqu'il a déboulé sur la petite scène littéraire romande il y a quelques années, notre invité a d'emblée imposé sa fraîcheur, son franc-parler et aussi le respect de ses pairs. Son premier roman, au titre arthaudien, a donné à entendre une langue vive, au souffle long venu d'ailleurs, au point diffusion des égouts, emmenait son lecteur dans une longue errance sur les routes des États-Unis. On y décelait déjà la préoccupation du jeune homme pour l'effilochement des liens sociaux et la tentation du repli sur soi. Dans la foulée, Quentin Mouron a publié en 2012 un deuxième roman, toujours chez Olivier Moratel, éditeur, Notre-Dame de la Merci, deuxième opus qui, comme le premier, a immédiatement trouvé ses lecteurs et suscité l'enthousiasme. Dans ce livre, l'auteur se souvenait de ses jeunes années passées dans une bourgade du Québec, la belle province, où il a passé une partie de son enfance et de son adolescence. Et puis, loin des États-Unis et du Québec, Quentin Mouron s'est à nouveau imposé l'année dernière avec La combustion humaine, récit plutôt cocasse et parfois acide, qui décrivait une certaine réalité du milieu éditorial et littéraire roman. Et voilà qu'en fin de saison littéraire, l'auteur a pris de la bouteille, il a aujourd'hui 26 ans. Il revient sur le devant de la scène en publiant, dans une maison d'édition française cette fois, un roman de genre dont le titre sonne comme un programme à l'heure du thé, Trois gouttes de sang et un nuage de coke. Et c'est ce livre que vous avez posé sur la table de lecture de Entre les lignes, Annick.
À l'heure du thé.
Oui, comme les vieilles anglaises.
Comme les vieilles anglaises, oui, bah, peut-être il y a un rapport. Bon, on est dans le roman noir, mais on verra que le roman noir permet beaucoup de choses. Un roman noir qui commence, enfin presque, par le meurtre d'un retraité. La quatrième de couverture nous dit qu'il est sans histoire à voir. Un retraité dont le corps est atrocement mutilé. La langue, d'ailleurs, sa langue a disparu. L'enquête est ouverte et deux hommes vont se croiser, peut-être vont ils se rencontrer. Le shérif, un honnête homme et bon père de famille qui fréquente assidûment, on est en Amérique, j'ai oublié de vous le dire, l'église de la Rédemption, et un détective privé, peu ordinaire, épris de pureté et accro à la cocaïne. Le tout donc se déroule à Watertown, c'est une banlieue qui existe, paraît-il, près de Boston. Vous connaissez bien sûr, et cela se passe en 2013. 2013, la crise de 2008 n'est pas très loin.
En novembre 2013, je précise. Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
On est absolument ravis de vous retrouver autour de notre table de lecture. Dites-moi, vous n'avez pas perdu votre langue, contrairement à la victime de votre polar?
Dieu merci, j'ai pas encore perdu ma langue, elle est toujours là, elle est prête à en faire dépendable.
Oui, et on la lui a pas arrachée après l'avant-dernier livre que vous avez sorti, qui fustigeait le milieu littéraire. Mm-hmm.
Ce livre, il y avait justement comme héros un certain... Comment s'appelle-t-il ce héros? Je ne l'ai plus en tête, mais enfin...
Le précédent livre?
Oui, La combustion humaine.
Morel. Jacques Vaillant-Morel.
Moratel, il y avait...
Non, il y avait un clin d'œil amical. Je crois que Moratel était justement l'exact inverse de ce personnage de Vaillant-Morel. Donc ça m'a permis de lui faire un petit clin d'œil, de lui adresser un...
Et Michel Moret ne vous en a pas voulu non plus?
J'avais pas vraiment pensé à lui. J'ai pensé à lui surtout quand il est venu faire signer son exemplaire au livre sur les quais à mort. Tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a peut-être un lien. Mais je le connais pas personnellement, donc je pense qu'il a pas pu...
Il l'a pas pris pour lui.
Certainement pas.
Ce que je n'ai pas dit dans ma petite présentation initiale, Quentin Mouron, c'est que vous intervenez régulièrement dans les pages de magazines et de quotidiens aussi. Vous avez une plume personnelle, presque journalistique. Et puis, vous vous exprimez aussi largement sur votre blog, sur des sujets extrêmement divers, comme si la prise de parole sur la place publique vous était précieuse, voire nécessaire.
Oui, je crois que j'ai toujours bien aimé ramener ma gueule sur un peu tout. On me l'a reproché et on m'a aussi félicité pour ça. Donc c'est un parti pris de m'exprimer aussi sur ce qui se passe dans mes romans. C'est vrai que là, ce sont des 4 heures de fiction. Peut-être que La combustion humaine avait un peu plus trait à une réalité présente, proche et immédiate. Mais je pense que ça me permet justement de parler aussi de ce qui se passe, parce que le processus d'un livre, c'est finalement c'est 1 an, c'est 2 ans de travail. On n'a pas le temps d'être, on peut être évidemment pertinent, profond, mais être réactif sur une actualité qui tombe comme ça devant nous, c'est beaucoup plus difficile. Alors le blog, les quotidiens, la télévision aussi avec Be Curious TV me permettent de faire ça, de me permettre de, oui, d'adopter la forme de la chronique qui me plaît particulièrement aussi. Alors c'est pas du tout le même travail, c'est pas le même engagement aussi, on est beaucoup plus engagé, curieusement, quand on écrit un roman.
Le terme engagé est toujours valable pour vous ?
Oui, mais pour moi, l'engagement principal, c'est quand on écrit le livre, c'est un roman, un vrai roman, parce que là, on s'engage entièrement. Tandis que l'actualité, on peut toujours, c'est une réaction à chaud, une réaction qui comporte un certain, une marge d'erreur aussi. On peut, quand on écrit une chronique, on peut ensuite s'excuser en disant, mais voilà, j'avais mal interprété la réalité à ce moment-là, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai changé d'avis. Le roman, on peut difficilement s'en dédire une fois qu'on l'a publié.
Quand je disais que vous n'aviez pas perdu votre langue, en voici la preuve la plus tangible. Ce qui veut dire, Quentin Mouron, que la vie en société, ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers le vivre ensemble, c'est quelque chose qui vous préoccupe ?
Oh, pas tellement, moi je suis quand même un grand solitaire. Hein. J'aime bien rentrer chez moi, le vivre ensemble c'est bien un moment, mais ensuite j'aime bien claquer la porte. Moi je demande pas une grande maison, je demande une maison avec une serrure.
Ouais.
Et donc c'est toute là ma revendication sociale à titre personnel. Et puis le vivre ensemble, je crois pas, c'est un terme un peu galvaudé à mon avis, c'est simplement qu'on est plongé dans une réalité sociale qui agit sur nous, et forcément quand on agit sur nous, on a aussi envie d'agir sur ce qui est à l'extérieur de nous.
Yannick.
Vous avez publié vos trois premiers romans chez Olivier Moratel, précisément. Aujourd'hui, vous voilà à La Grande Ourse. Rien à voir avec votre dernier livre, votre avant-dernier livre, La Combustion Humaine, ce changement d'éditeur.
Non, rien à voir. C'était vraiment un hasard. Je crois qu'Olivier Moratel et moi, on a eu une très belle collaboration. On s'entend toujours d'ailleurs très bien. Il a aussi lui-même fait des démarches pour essayer de me trouver un éditeur, de m'aider dans ma recherche
d'éditeur. Mais c'est pas banal, ça.
Non, je pense que c'est pas banal. C'est pas quelqu'un de banal d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un qui est précieux dans le milieu de la littérature suisse. Je pense qu'il apporte une touche d'humanité, de fraîcheur.
Parce que Moratel est un éditeur fidèle qui compte aussi peut-être sur la fidélité de ses auteurs, de ceux qu'il a mis en avant. C'est quand même lui qui vous a découvert il y a quelques années, qui vous a mis en avant, qui vous a édité pendant trois livres. Et aujourd'hui, il vous lâche la bride, il vous dit va vivre ta vie sur le réseau français.
Oui, absolument. Moi je mets toujours en question cette notion de fidélité éditoriale. Pour moi, la fidélité, c'est pas de publier, de lui imposer tous mes livres et lui dire tiens, publie tout ce que je fais, ça c'est pas de la fidélité. La fidélité, elle se crée en amitié, elle se crée en amour, elle peut se créer sous d'autres formes de relations, mais éditorialement, je pense que c'est plutôt c'est une opération contractuelle finalement, et amicalement Olivier et moi on reste très proches. Éditorialement, eh bien je me suis éloigné, il s'est éloigné, et puis pour le meilleur.
Vous êtes émancipé, Annick.
Olivier Moratel est aussi un découvreur, donc je pense qu'il a plaisir à voir ses poulains s'ouvrir. Alors précisément s'ouvrir, donc La Grande Ourse, c'est une petite, au bon sens du terme, maison d'édition française, néanmoins française, francophone. Cela élargit votre horizon. Je pensais à votre enfance où vos parents sont partis au Québec, voir d'autres contrées. C'est un peu votre façon de faire à travers le livre. S'ouvrir.
Oui. Oui, je crois que c'était vraiment nécessaire. C'était vraiment aussi essayer une nouvelle expérience, parce qu'une nouvelle maison d'édition, c'est aussi une nouvelle expérience de travail. Dans les deux cas, on travaille beaucoup le texte, et chez Moratel et à La Grande Ourse, mais on le fait de manière différente. On se penche sur d'autres questions qui président aux corrections. Et puis oui, c'est en effet une bouffée d'air, forcément. C'est aussi qu'il faut bien le dire que pour ce qui est des livres, les frontières sont très épaisses. Pour les franchir, il faut déjà être solidement armé. Et puis, je crois que La Grande Ourse est tout à fait armée pour ce genre d'opération.
On peut signaler d'ailleurs à ce propos que Lily Brett, un auteur de La Grande Ourse, a obtenu le Médicis étranger pour Lola Bensky. Puis quand même, au passage, Zoé, ça c'était en 2009, a eu, avec Mathias Tchoquet pour Maurice à la poule, le Femina étranger. Donc il y a des possibilités.
Et c'est aussi l'occasion pour vous, Quentin Mouron, de toucher un lectorat plus vaste, francophone, fait d'être édité sur territoire français.
Oui, absolument. Le fait d'être édité par une maison justement qui vient d'avoir le Médicis, ça ouvre aussi grand les portes de toutes les librairies de France. Moi, j'ai reçu des photos, des envois, des mails de lecteurs qui viennent de partout, alors que d'habitude c'est vrai que ça se recentrait plutôt sur la Suisse romande. Là je reçois des messages de libraires aussi du nord de la France, du sud de la France, du fin fond de la France, qui m'écrivent de Belgique, qui me disent qu'ils ont adoré mon livre, qu'ils sont en train de le... Et je crois que d'ailleurs que c'est un bon succès de librairie pour l'instant, peu de temps après sa sortie.
Il est sorti il y a quelques jours, le 3 juin.
Il est sorti il y a quelques jours, voilà, exactement.
C'est encore un peu tôt pour se prononcer. prononcer sur le succès de librairie.
Bah, j'ai déjà vu le sondage Payot, là, fait Payot, qui le donnait en cinquième position des ventes.
Vous suivez l'affaire de près, dites-moi.
Absolument, je suis l'affaire de très près. C'est le travail de la sortie d'un livre. Ça dure un mois, il faut le faire à fond.
Comment ça dure un mois?
Ah bah là, souvent
promotion.
Ça dure un mois. Après les gens, c'est-à-dire que ça dure un mois. C'est un mois où c'est tous les jours, et puis ensuite, bah, c'est plus espacé.
Après, c'est les romans, pas les romans de gare, mais les romans de plage.
C'est déjà,
juillet est très
pour
vite,
la
là.
Plage, ça va. Là, je crois que celui-là, il convient pour la plage. Il convient pour, à mon avis, je le prendrai à la plage.
Au Québec, êtes-vous connu autant qu'en Suisse, par exemple? Vous êtes à moitié québécois, donc.
Pas énormément. Il y a eu quelques articles qui sont parus au Québec. Il y a un lectorat québécois assez fidèle, d'ailleurs, avec qui j'ai un contact. Mais forcément, la distance fait que je peux pas me déplacer, ou pas souvent, donc c'est quelque chose d'un peu plus difficile. Je sais que si je vais au Québec, l'éditeur s'est déjà assuré d'un certain nombre de signatures qui seraient possibles de faire en librairie, donc tout ça est possible, mais c'est quelque chose, il faut quand même pouvoir être Paris
place,
à 3 heures de TGV,
ouais.
Il faut quand même que c'est accessible. Le Québec est à 7 heures d'avion, c'est déjà nettement plus difficile.
Car les Québécois aiment leurs auteurs, donc ça vaut peut-être la peine d'aller faire un nouveau séjour là-bas.
Votre enthousiasme et votre vivacité, Quentin Mouron, fait toujours plaisir à entendre. Alors, si on parlait littérature maintenant, après tous ces préliminaires, on va quand même l'ouvrir, ce dernier livre, « Trois gouttes de sang et un nuage de coke ». Et on va tout de suite camper le décor très typé du roman en écoutant les deux premières pages de « Trois gouttes de sang et un nuage de coke ». Je ne me lasse pas de prononcer ce titre, il est plutôt bien trouvé. Le comédien Guillaume Prin va nous les donner en lecture de sa voix très raccord avec le roman noir.
Le pick-up noir est stationné à l'angle de la rue Parker et de la rue Montauburn. Le vieux Jimmy Henderson a laissé tourner le moteur et il finit d'engloutir la part de pizza au pepperoni achetée dans le resto qui fait l'angle. L'habitacle sent la friture, le sang frais, le tabac froid. Des emballages de nourriture et de boissons jonchent le sol. Un morceau de carcasse de cerf enveloppé dans du plastique est posé sur le siège passager. Un fusil de chasse, Winchester calibre 12 à pompe, est appuyé contre le tableau de bord. Suspendu au rétroviseur, un désodorisant en forme de Christ crucifié. La rue Montauburn est calme. L'épicerie vient de fermer et la nuit est tombée. Dans son rétroviseur, Jimmy regarde la première église baptiste transformée en appartement milieu de gamme. Les familles du quartier se les disputent. Il a connu l'une d'elles, les Wallace. L'époux est mort. Il bricolait une vieille Corvette dans le garage d'un ami quand un coup de tournevis maladroit a fait pisser le réservoir d'essence. Il avait une clope au bec et tout a explosé. Sa veuve le pleure encore. L'urne funéraire est posée sur la table. On dîne chaque soir en tête-à-tête. La première église baptiste a été construite au début du XXe siècle. Énorme, trapue, carrée, elle n'a ni le charme dépouillé de certains petits temples de Boston, ni la raide majesté de l'église de la Sainte-Croix. C'est le décor parfait pour les drames modestes, parfait pour l'alcoolisme de celui-ci, la passion du jeu de celui-là, les tromperies, parfait pour la mère Wallace qui larmoie devant son urne. Pour le vieux Jim, depuis la rue, la scène est amusante. De l'intérieur, à la table, par les yeux de la veuve, tout change de consistance. On ne peut pas lui demander de rire. Jimmy allume ses phares. Il va repartir quand il aperçoit la silhouette d'un homme qui remonte vers Montauburn depuis le bout de la rue Parker. Un homme qui n'est pas de ceux que l'on croise à Watertown. Il est vêtu avec trop de soin. Ici, on s'habille, bien sûr. Les grandes familles du centre donnent des cocktails et on y vient en smoking. Ce n'est pas la campagne. Mais les huiles qui se rendent à ces soirées ont toujours quelque chose d'apprêté, de forcé, d'ostensible. L'homme qui s'approche est élégant, son manteau noir est sobre, mais parfaitement coupé, son pantalon aussi. Il porte des gants, ses chaussures sont vernies. Il se rapproche. Jimmy distingue son visage, une trentaine d'années. C'est un bel homme. Ses cheveux sont foncés, ses yeux clairs. Les traits sont réguliers. L'homme s'arrête à la hauteur du pick-up. « Bonsoir, » balbutie Jimmy. L'homme s'incline légèrement.
«
Trois gouttes de sang et un nuage de coke. Tout commence par un meurtre, c'est ce qu'on est tenté de dire, mais c'est pas tout à fait vrai. Tout commence, on l'a entendu, par une rencontre. On saura quelques pages plus loin, peut-être, quelques pages encore plus loin, probablement, et à la fin, très certainement, qui a tué ce Jimmy Anderson, retrouvé mort, criblé de balles et donc mutilé. Ce qui compte dans l'ouverture, quand un mouron, c'est le décor, c'est planter le décor et l'atmosphère d'abord. C'est cela que vous aviez envie de montrer, de donner.
Oui, je pense que c'est une nécessité de savoir où on est, de savoir quand, de savoir pourquoi peut-être. Et puis, oui, de planter le décor, mais pas seulement, de montrer simplement aussi, par un simple cliché, par un instantané, qui est ce personnage, le montrer dans sa simplicité, dans la simplicité de ses observations et aussi de la vie qu'il mène. Et je pense que c'est ça aussi qui va ensuite déclencher le reste du livre. Et on dévide finalement toujours le livre à partir du premier chapitre.
Vous venez d'employer le terme cliché. Mais c'est intéressant. Lorsqu'on se lance dans le roman noir, justement, est-ce que forcément on a des clichés qui viennent en tête, peut-être des références et des passages obligés? Le climat, c'est aussi une chose qui fait partie de.
Bien sûr. Et c'est toute la
partie. Des impondérables du roman noir.
Oui, c'est la partie amusante de la chose, d'ailleurs, aussi, de se mouler dans ce cliché, de se dire, bah, tiens, là, maintenant, je suis pas Quentin Mourant, je suis un auteur de polar. Qui existe, voilà, interchangeable, et puis on commence quelque chose, puis ensuite tout vient, les observations viennent, le style Quentin Mourant se met en place, et puis ensuite on a ce début polar sur ces trois premiers chapitres. Le premier jour, c'est la première partie du livre qui est assez brève, c'est un prologue assez classique, début d'enquête, rencontre entre les personnages, exposition de manière, je vais pas dire scolaire, mais enfin assez classique. On peut retrouver des choses comme ça dans plusieurs romans, je l'admets.
Tellement
tout à fait
classique que des grands classiques du cinéma noir et blanc des années 50 nous viennent à l'esprit. En
oui.
tout cas, ça a été mon
Oui, je pense que c'est une référence qui peut tout à fait être envisageable. Il y a ce côté classique et c'est ça qui est intéressant finalement. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait, alors la comparaison est peut-être un peu audacieuse, mais qu'est-ce qui fait la force d'une pièce comme Phèdre par exemple, où c'est pas l'originalité du schéma, c'est pas le fait, Phèdre commence de manière assez classique, enfin classique en plus c'est le cas de le dire, mais de manière assez tout est attendu, mais ce qui est fort ensuite, c'est le style de Racine, c'est l'idée de Racine, c'est la puissance de fond, et c'est, je pense, à mon niveau, ce que j'essaye de mettre en place dans ce livre, c'est-à-dire reprendre un canevas qui est usé, trop usé sans doute, et puis d'en faire quelque chose ensuite en faisant jaillir de ce canevas usé quelque chose de neuf, quelque chose d'un peu plus brillant, d'un peu plus coruscant.
Je me demandais justement, en vous lisant, si vous aviez choisi le canevas et le genre d'ailleurs, avant de commencer d'écrire, ou parfois certains auteurs nous disent, en écrivant tout d'un coup, j'ai bifurqué, j'ai trouvé, etc. Alors plutôt que de vous poser la question directement, je vais vous proposer d'écouter cet avis de Franck sur la littérature.
Oui, tendez-moi votre oreille et laissez-moi vous préciser ma pensée. Les choses ne sont pas essentiellement ennuyeuses, voyez-vous. Seulement, elles s'usent. Ce qui vous a amusé un temps finit par vous lasser. Vous aimez les femmes, moins de 20 femmes et c'est le dégoût. Les livres, il y en a très peu, moins d'une dizaine qui valent la peine qu'on y revienne. Et les auteurs, leurs œuvres... Tout cela est semblable au plus banal des ciels flamboyants, au panorama grandiose le plus commun. À la longue, ils deviennent gris, ils fatiguent. Alors pour un homme lassé, revenu, si j'ose dire, le meurtre, cela peut être une option. Si la sensation était à ce prix, le caprice n'est que le pendant de l'ennui, et comme lui, n'est ni bon ni mauvais.
Ce sentiment d'usure, de lassitude, de ce besoin de renouvellement, Quentin Mourant, vous le connaissez déjà à votre âge, vous, en tant que jeune auteur ?
Oui, je le connais, mais je crois que quand on est romancier, on connaît tous les sentiments qui habitent nos auteurs. On connaît l'envie de tuer, on connaît l'envie de violer, on connaît l'envie d'incendier, l'envie de se droguer, l'envie de se détruire. On doit l'avoir fréquenté, sinon on est dans la chronique lointaine, si j'ose dire, et désincarnée. Donc je pense que pour incarner ces personnages, pour les faire vivre, on est obligé d'avoir ces sentiments-là. Je pense qu'un bon enquêteur, c'est toujours un bon assassin en puissance, si on veut. C'est quelqu'un qui peut comprendre à qui il a affaire. Sinon, on reste reste à la surface. Et je pense qu'il faut... Je ne vous dis pas que c'est le personnage de Franck, c'est moi, ou que c'est une projection de moi-même, parce qu'on semble le ressort à chaque livre. Et c'est chaque fois... je suis une fois un vieil éditeur, une fois une vieille droguée. Enfin, donc, ce n'est pas moi, évidemment. Mais il y a quelque chose de moi dans ce personnage, comme dans tous les autres. Ouais. Et puis, pour que ces personnages existent en tant que personnages, qu'ils aient une chair, il faut que l'auteur soit en mesure de les comprendre.
Annick. Alors, on va revenir à ces personnages. Juste au passage, Franck, c'est donc le détective privé. Le bon flic s'appelle Paul McCarthy. Voilà. Lorsque vous avez écrit, ou après la parution de Notre-Dame de la Merci, par exemple, c'est vous, si je ne me trompe pas, qui aviez comparé votre écriture à celle de Simenon, déjà, quand même. Donc, il y a quelque chose, déjà, de cette nature du roman noir, parce que Simenon a été influencé, on le sait, par le roman noir. Alors, américain des années 20.
J'étais un lecteur de Simenon, particulièrement Les Maigrets, qui me détendent énormément. J'adore ce type qui se traîne en éclusant des petits calvas et des petites bières, un peu comme mon personnage le
avec
fait, des
coke.
Lignes de cocaïne. Voilà, exactement. Mais je crois que c'est pas moi qui avais fait cette comparaison, mais elle est tout à fait sensée, dans le sens où il y a un sens de l'observation chez Simenon vers lequel j'aimerais tendre. Et puis oui, il y a quelque chose peut-être d'américain aussi chez Simenon. Il y a chez lui quelque chose d'assez fort. Et puis son personnage, le personnage de Maigret, c'est un personnage très sous-estimé, à mon avis. C'est un personnage assez génial, finalement.
Sous-estimé ?
Moi, je trouve qu'il est très sous-estimé. Quand on veut faire bien dans les dîners, on dit « moi, j'aime bien Simenon, surtout ses romans, pas forcément Les Maigrets, mais les vrais romans de littérature. Ouais. » Et moi, j'aime bien Les Maigrets. Je dois dire que j'aime bien ce type qui traîne la patte en buvant ses calvas. Je le trouve merveilleux avec son petit côté et sa blanquette de veau.
Enfin, il ne boit pas que du calva. Hein.
Non, pas que du calva. Il boit beaucoup de calva. Mais
il a une bonne descente et toujours confondu.
Oui, moi, j'avais fait le compte une fois en lisant une nouvelle. Je me suis dit, si je bois tout ça, mais je suis ivre mort, je suis dans le coma. C'est terrible.
Et le nuage de coke, pour paraphraser le nuage de lait, ce serait celui d'Agatha Christie ou de ces vieilles anglaises qui écrivaient des romans que j'aime bien, à la plage justement, qui sont assez sympathiques. Vous y pensiez en prenant le titre ?
J'y pensais moins, j'y ai pas tellement pensé. Il y a eu plusieurs idées pour le titre. J'ai fait des propositions à l'éditeur, et puis finalement on s'est décidé pour Trois gouttes de sang et un nuage de coke, mais il n'y avait pas vraiment là de référence à Agatha Christie. Je connais pas très bien en fait Agatha Christie, pour être honnête.
Mmh. Vous connaissez plus Simenon que Agatha Christie.
Oui, exactement.
Bon, mais restez à Simenon, je pense que ça vous plaira davantage. On revient à l'homme qui est assassiné. Il a de l'importance, vous disiez, je le pose lui d'abord, qui est-ce ? Alors c'est quoi, un américain type ?
Oui, je crois que c'est c'est un américain type.
Un stéréotype. Alors, il mange des tranches de pizza, il a un pick-up noir, probablement des bières dans le coffre.
Sans doute.
Et pas que des bières.
Il pêche, il chasse.
Ça sent
aussi.
Le sang quand même, hein, tout de suite, dans sa voiture.
Oui, parce qu'il a une carcasse de cerf, une partie en tout cas de l'animal qui vient de chasser. Donc c'est évidemment, oui, c'est un américain type. Tous les Américains, évidemment, ne chassent pas et ne conduisent pas de pick-up, mais enfin c'est quand même... J'avais envie de placer vraiment un type et voir un stéréotype à l'introduction de ce roman. J'avais envie qu'on commence vraiment sur quelque chose de banal, qu'on commence sur un personnage qui soit anonyme, et puis pour ensuite faire venir entrer les grandes orgues de Franck, qui lui, pour le coup, n'est pas banal, n'est pas anonyme et n'est pas du tout un Américain.
Les grandes orgues, pourquoi ?
Il y a un côté comme ça, un peu symphonique de Franck qui arrive comme ça. On est dans quelque chose de très sourd, de très délicat. Et puis tout d'un coup, il y a ce type qui arrive tempétueux, qui, au niveau des dialogues aussi, les dialogues entre les autres personnages, en général, c'est quelques lignes. Quand on voit les flics dans leur commissariat, ils échangent quelques lignes assez brèves, assez agressives surtout. Et puis, quand c'est Franck qui prend la parole, c'est souvent sur le mode du monologue, c'est des grands pavés de texte. Lui-même s'embrouille, se reprend, sans venir la phrase. Donc il y a quelque chose vraiment de symphonique, à mon avis.
C'est une bonne occasion d'avancer dans le roman. Je rappelle qu'il y a meurtre, donc enquête, quelques flics, peut-être même... Je mets beaucoup de peut-être, hein, quand même, parce que plus on avance dans le texte, plus on se rend compte que les stéréotypes peuvent être regardés de différentes façons. Alors, il y a peut-être même un bon flic et un flic pourri. Alors, le bon flic pourri, ce serait Franck, quoique c'est un personnage plus que pourri, il est énigmatique, il est hors norme. C'est un détective privé qui a sa conception toute personnelle du métier et du monde qui l'entoure. Et je vous propose d'écouter un exemple dans cet extrait qui résonne comme une petite histoire dans l'histoire.
Guillaume Prin nous livre ce passage en lecture.
Franck marche dans la nuit. La neige tombe. La première fois qu'il vient à Watertown, mais il connaît cette ambiance des villes de l'Est, parfois émouvante, lorsque la lune éclaire de biais le volage des flocons, parfois inquiétante quand un cri fend la nuit venu d'une ruelle ou d'une maison proche. Alors qu'il remonte la rue Palfrey, un clochard surgit d'une transversale. Il pue l'alcool et la pisse. Sa barbe est sale, emmêlée. Des cheveux gras sortent des rebords d'un bonnet de laine et semblent ruisseler sur son visage. Il boite. « Vous n'auriez pas une pièce, monsieur ?» demande-t-il, la voix éraillée par des années de misère, d'excès et d'intempéries. Franck s'arrête. Il ne répond pas. Le clochard s'enhardit. « Monsieur, s'il vous plaît, je sais, » coupe sèchement Franck. « Je sais très bien ce que vous allez me dire. Si vous pouviez... » Franck glisse sa main dans sa poche. « Combien tu veux ?»« 5 dollars, 2 dollars, 1 seul, si vous saviez. Laissez-moi vous expliquer, raconter mon histoire. » « Ce n'est pas ton histoire, vieillard. C'est celle de tous les autres. Tu sais comment tu vas finir ? Assassiné par l'un de tes semblables au coin d'une rue identique à celle-ci pendant une nuit toute pareille à celle-là. Lui aussi aura travaillé pour Ford ou GMC ou Walmart. Lui aussi aura commencé à boire et perdu son job et sa femme. Lui aussi aura essuyé les regards méprisants des femmes qu'il a désirées avant de renoncer finalement à l'idée même de sexualité. Lui aussi aura vu son avenir et son passé dilué dans un présent opaque. Lui aussi sera devenu une ombre parmi les ombres dans une ville qui peut à peine prétendre avoir la dignité d'une apparence. Je connais cette histoire, mon vieux. » Franck se tait, s'immobilise, les yeux levés vers les cimes noirâtres des petits immeubles et des poteaux électriques. Il réfléchit. Chaque fois que cet homme demande de l'argent à quelqu'un, il peut être exaucé, ignoré ou battu. Drôle d'être, hein ? Sans poids, sans consistance, une ombre. S'il est en vie, c'est qu'il n'a encore pris à personne la fantaisie de le tuer. Se soucierait-on de son cadavre plus que d'un sac à ordures ? Non, sans doute. N'importe qui peut ou lui glisser la pièce, ou lui ouvrir la gorge et... Non, pas l'égorger, le pendre, c'est cela. Notre homme est tout entier suspendu aux caprices des passants. Franck sort un billet de 5 dollars. Il le jette au clochard qui le regarde, bouche bée. « Maintenant, tire-toi. »
Vous êtes notre invité entre les lignes sur Espace 2, Quentin Mouron, pour évoquer votre 4e roman paru il y a quelques jours aux éditions La Grande Ourse. Son titre, On ne s'en lasse pas, 3 gouttes de sang et un nuage de coke. Cela se passe dans la banlieue de Boston en novembre 2013. Le cadavre mutilé d'un retraité est retrouvé dans son pick-up. C'est le shérif McCarthy qui est chargé de l'affaire, alors qu'un jeune détective borderline, dandy, nommé Frank, mène l'enquête de son côté en parallèle. Et pour évoquer cette histoire sombre située sur la côte est américaine, j'ai choisi un album du trio américain Fly, conduit par le saxophoniste Mark Turner. L'album porte le titre générique Year of the Snake. Il apparaît sous le label OCM en 2012, donc juste une année avant les faits que vous relatez dans cette histoire. Dans votre roman, j'ai remarqué qu'il existe plusieurs références musicales, et notamment à Frank Sinatra. Avez-vous une prédilection pour le répertoire du grand Frankie ?
Pas particulièrement, mais je l'ai écouté. J'ai eu un moment Sinatra quand j'avais 15 ans. Je sais pas d'où c'est venu, mais j'écoutais tout le temps Sinatra. Ça a duré vraiment 6 mois.
On imagine qu'un adolescent aujourd'hui de 15 ans écoute tout sauf Frank Sinatra.
Moi, j'écoutais seulement Sinatra, mais ça a vraiment duré quelques mois. Après, je suis parti vers d'autres trucs, mais c'est vrai que j'ai eu un moment curieux comme ça. Ouais, Sinatra.
Et ça ressort maintenant dans ce roman.
Peut-être que voilà, c'est une sorte, exactement, ça a dû me marquer d'une manière ou d'une autre. Alors, je suis pas un grand admirateur de Sinatra, la plupart de ses chansons m'ennuient un peu, mais je trouve que ça colle bien aussi. Le Sinatra, c'est aussi une ambiance, c'est quelque chose qu'on écoute aussi volontiers sur la route. C'est peut-être le seul moment où j'ai réécouté ensuite, c'était quand je roulais, quand je parcourais les États-Unis
la
en voiture.
La route 66.
Notamment, mais pas que la route 66, les petites ruelles aussi, des petites choses moins connues, mais avec Sinatra.
Annick. Le roman noir, ça va avec la musique. Vous l'entendez quand vous écrivez, par exemple?
J'écoute pas mal de musique, mais pas en général de la musique où il y a des paroles, ou à moins que ce soit vraiment une langue que je comprenne pas. Mais si c'est du français ou de l'anglais, j'ai tendance un peu trop à assimiler les paroles. Donc j'écoute plutôt des choses instrumentales.
Ou de la variété coréenne.
Voilà, oui, voilà ce genre de choses. Voilà. Mon coréen n'est pas si mauvais, mais enfin.
T'as le look Coco. Non, mais ça, c'est... Vous connaissez pas ?
Évidemment.
C'est une chanson, mais je sais plus si c'est vietnam ou coréen. Eh bien, malheureusement, on connaît les paroles. On entend les paroles. Voilà.
Alors, allez, on revient
à Frank. C'est votre personnage principal, Frank ?
Oui. C'est vraiment, je pense que c'est le pivot aussi du
donc,
livre.
Donc détective qui... privé.
Privé, oui, c'est une étiquette parmi d'autres. Lui-même réfute en général toutes sortes de... Il se bat entre les différents masques que lui-même se met et qu'on lui met. Donc oui, mais détective privé, évidemment, dans les faits, oui. Ce qui permet aussi de porter l'intrigue. C'est un excellent détective privé, d'ailleurs. Mais qui enquête plutôt par plaisir, plutôt par... parce qu'il est là et puis qu'il a envie de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il a envie surtout de se désennuyer.
Un peu pervers aussi le personnage.
Pardon. Oui, sans doute, oui, pervers, oui, bien sûr. Oui.
Parce que quand vous dites plaisir, je dirais son bon plaisir. Parce qu'il est particulier, son plaisir. Alors, on va parler de vos thèmes, quelques-uns de vos thèmes. On les retrouve quand même de livre en livre, Quentin Mouron. Vous avez dit masque, par exemple. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui vous tient très à cœur. Chacun de nous a différentes facettes. Alors, ce Franck a plusieurs masques. D'ailleurs, les autres en ont aussi. C'est un des thèmes. Comment choisissez-vous ? En construisant votre personnage, vous lui créez des facettes, des masques. Vous choisissez les thèmes. Comment vous écrivez ça ?
Je crois qu'on choisit l'action, on choisit le cadre, on choisit les personnages, on choisit, et puis le reste ensuite, les thèmes, c'est plutôt du registre de l'obsession, c'est plutôt ce qui vient ensuite sur le papier.
Ça vient tout seul.
Ça vient, oui, voilà, exactement. Moi, je pense que j'aurais pu écrire un livre. Je peux écrire un roman noir, je pense que je pourrais écrire un livre de fantasy, je pourrais écrire un livre érotique, mais je pense que les thèmes reviendraient malgré moi.
Oui, parce que là, vous écrivez un roman noir et non pas un polar. Alors, discuter du genre,
oui,
du sous-genre.
Oui, moi, je suis toujours tellement mauvais pour les genres que j'aurais franchement de la peine à décider. Mais...
Très simplement, un roman noir recouvre passablement plus de choses qu'un polar.
Oui,
voilà. Le roman noir inclut pas forcément la critique sociale, mais la vision sociale ou même une vision. Alors, un autre de ces thèmes qui apparaît, eh bien, c'est à travers Franck, de nouveau, il fait preuve d'une incroyable indépendance et surtout d'une incroyable liberté. Liberté d'action, pas toujours pour le meilleur d'ailleurs, et liberté de penser. Ça aussi, c'est un thème que vous avez envie de creuser chaque fois.
Oui, je pense que c'est pas seulement la liberté elle-même, c'est pas seulement une exaltation de la liberté qui est présente aussi, bien sûr, dans les discours de Franck et sous d'autres facettes. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la liberté qui se brise aussi, la liberté qui se brise contre un cadre social, mais aussi un cadre physique, un cadre. Et c'est toute la question de la nécessité qui était posée de manière très claire dans Notre-Dame de la Merci, et qui est reposée dans 3 gouttes de sang et un nuage de coke, avec ce personnage où la grande question, c'est de savoir quand on a un suspect, quand on a un quartier qui a produit ce suspect-là, un quartier malfamé, quand on a un crime, Est-ce que les choses peuvent être différentes? Ou est-ce que finalement la réalité est réduite à l'apparence? Et finalement, est-ce que les choses sont ce qu'elles devraient être? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elles soient autrement? Toute l'enquête pose cette question, le livre pose cette question, et Franck la pose de manière directe et de manière intéressée, puisque lui-même n'est pas au clair avec ça. Lui-même, par moments, se sent extrêmement libre, ça coïncide souvent avec les moments où il prend de la drogue, et puis par moments, au contraire, ça coïncide cette fois avec les moments de descente de drogue, a l'impression d'être enfermé, a l'impression de n'être qu'un pantin mu par des fils.
Il n'a pas de nom, ce Franck. C'est le seul qui n'en a pas, d'ailleurs, de nom. Donc, il a un prénom. Il a, voilà. Nom, prénom. Il n'a pas de nom. Ça, c'était évidemment désiré, souhaité de votre part, puisque tous les autres en ont.
Oui, c'était souhaité. J'ai pas cru bon de lui donner un nom de famille. Je pense que c'est bien que Franck reste quelque peu éthéré, quelque peu...
Ça stimule notre imagination aussi.
Oui, je pense, oui.
Des petites choses comme ça où on se dit, mais tiens, pourquoi?
Et puis, le lecteur est libre de lui mettre un nom, il n'y a pas de problème.
Vous parliez, enfin c'est moi qui vous ai tendu la perche tout à l'heure, de perversité. Où se situe la perversité de ce personnage?
Je pense que c'est dans son... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne, qu'on voit par moments généreux, mais qui reprend aussi. C'est-à-dire que je pense que la perversité de Franck, elle est subsumée sous le caprice, si vous voulez. C'est-à-dire que tout est un caprice pour lui. Et puis parfois, il y a quelque chose qui va être de l'ordre de l'altruisme, du généreux, vraiment. Et puis d'autres moments, ça va être vraiment quelque chose de l'ordre de la violence, de l'ordre de la perversion, de l'ordre de la méchanceté.
C'est ce qu'on a entendu dans la scène lue à l'instant par Guillaume Prin.
Voilà, hein, voilà exactement.
La scène avec ce...
Voilà exactement, c'est-à-dire que là on peut pas... Franck donne 5 dollars, mais c'est pas parce qu'il est généreux. S'il avait tiré une baffe au type, c'est pas forcément parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il est capricieux.
Ouais. Annick ?
J'avais envie de garder cette question pour plus tard parce qu'elle ne concerne pas que Franck, mais quand même, s'il est comme ça, Franck, c'est à cause de lui, à cause du monde, mais s'il est comme ça à cause de lui, c'est aussi à cause de son enfance. Et ça sort également dans tous vos romans. L'enfance de vos protagonistes, là-dedans, l'enfance du shérif, bien sous tout rapport, eh bien, on va voir que... On garde ça un peu pour la suite, hein, quand même, Quentin. On va voir qu'elle n'était pas toute simple, mais celle de Franck, elle était assez terrible aussi.
Bon, elle est vraiment
ce jeune homme bien sous tout rapport.
Elle est vraiment esquissée, l'enfance de Franck, c'est-à-dire que on en parle vraiment d'un moment dans la boîte de nuit, on parle d'une enfance maladive, une enfance passée à lire, mais il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, d'éléments violents dans l'enfance de Franck. Enfin, en tout cas, il ne le dit pas.
Oui, mais on peut l'imaginer, vu qu'il est bien fringué, qu'il a l'air d'avoir de l'argent, qu'il a l'air de se mouvoir avec facilité dans le monde, on l'imaginerait venant d'une famille, comment dire, bourgeoise, banale. Voilà.
Justement, pas en fait. En fait, je crois qu'il précise ce ferreur dans la, non, au moment de la boîte de nuit, qui avait justement eu, c'était plutôt une famille un peu bouée, un peu... revenu modeste, qui était...
Et un petit peu alcoolique, quand
même. Oui, certainement alcoolique, alcoolique. Oui, donc il y a évidemment cette notion-là de l'enfance. Ça, c'est vraiment un film, moi, j'avais pas envie de trop entrer dans les détails de l'enfance, de l'adolescence, parce que le problème, c'est qu'ensuite, on fait du roman psychologique et de la psychologie, et j'ai horreur de ça.
Alors, n'ayez crainte, il n'y a rien. Mais, voilà. Mais ces petits moments où on voit qu'il ne vient pas d'où on pensait qu'il vienne, c'est très important, et ça fait tilt.
Oui, ça, voilà. Évidemment, je pense que c'est bien d'entretenir ce genre de contraste, et ça correspond à l'itinéraire de Franck qui se veut justement qui essaye de sortir de ce côté nécessaire.
Il a une phrase terrible, après j'arrête, Jean-Marie, qui me fait on lui dit mais vous n'êtes pas un homme ordinaire, à peu près, hein, et il répond: je n'en suis pas si sûr. Donc sa grande crainte est d'être un homme ordinaire.
Bien sûr, je crois que c'est vraiment la grande peur du personnage, oui.
Si on allait fouiller dans la valise de votre personnage Franck, Quentin Mourant, parce que dans un polar, tout indice est capable de parler, voire d'infléchir l'enquête, eh bien, en détaillant le contenu de cette valise, le lecteur en apprend pas mal sur son profil de détective privé aux multiples addictions. Écoutez.
Franck entre dans la suite 478. Il allume la lumière. Ses deux valises sont posées au pied du lit. Il s'assied sur celui-ci, sort la lettre de sa poche et commence à la lire, avant d'y mettre le feu et de la jeter dans la cheminée. Il ouvre la première valise et en sort des vêtements qu'il range dans une armoire. Un veston noir, un veston lilas, des pantalons, des chemises, une paire de bottines, 4 cravates, un nœud papillon, 2 paires de gants, une robe de chambre. Puis il ferme les stores, pose l'autre valise, plus petite, sur le lit et en inventorie le contenu. 10 paquets de cigarettes Davidoff, plusieurs pochettes d'allumettes, ses affaires de toilette, sa montre Jaco en or rose, sa plume, un calepin, un jeu d'échecs de voyage, un petit cahier à couverture de cuir, le vice suprême de Joséphin Péladan, les essais de psychologie contemporaine de Paul Bourget, la biographie de Chestov, un ordinateur portable, un couteau à cran d'arrêt, un couteau papillon, une cuillère à café en argent, une enveloppe contenant 15 grammes de cocaïne et un pistolet mitrailleur Ster TMP muni d'un silencieux.
Quentin Mouron, je vais pas vous faire les poches pour savoir ce qu'il s'y trouve. Cigarettes, coke, tout ça, on va vous laisser tranquille. Par contre, je suis très intriguée. Joséphin Péladan, auteur de la fin du 19e siècle, ai-je appris? Vous le connaissiez déjà? C'est un auteur que vous lisiez ou c'est des choses aussi que vous allez chercher pour étayer le livre, pour faire des comparaisons? C'est un écrivain occultiste, lui.
Oui, exactement. C'est un auteur que j'ai lu, que j'avais lu plus ou moins par hasard. Je pense.
Donc vous ne lisez pas Agatha Christie, mais
Péladan. Mais Péladan, ouais. J'étais tombé dessus. Je crois, en me renseignant, j'adore Jean Lorrain, alors en me renseignant sur Jean Lorrain, j'étais tombé sur
le tsar Mérodac, Joséphin Péladan, c'est son pseudonyme entier, ça.
Exactement.
Mélan,
ouais. Exactement.
Et
oui.
Qu'a-t-il écrit, ce monsieur?
Il a écrit une série d'au moins de 20 livres qui se voulait une sorte de nouvelle comédie humaine de la fin du 19e siècle, qui est complètement tombée dans l'oubli. Je crois que Slatkin les a republiés il y a quelques années. Mmh. Et puis, alors, ça commence très bien avec Le Vice Suprême, qui est un excellent livre, à mon avis. Et puis ensuite, ça devient de plus en plus terrible. Plus en plus, le style devient presque illisible. C'est quelque chose de plus en plus touffu, vénéneux. Mais c'est quelque chose de fascinant. C'est un personnage assez fascinant. J'ai quelques-uns de ses livres. Il faut parfois aller les trouver en édition originale. Mais c'est je trouve que c'est un personnage qui correspond très bien à celui de Franck, et surtout, il permet de dire quelque chose de l'époque. C'était l'époque de la décadence. Mmh. C'est-à-dire que on s'élevait aussi contre une société de production de masse, et qu'on avait perdu les repères aussi, les repères qui étaient les repères chrétiens traditionnels. Donc on allait chercher par des sectes chrétiennes, mmh. par un occultisme, par un bagage terrible tiré de la cabale, tiré de toutes sortes de choses, un espèce de ramassis composite de sens, on essaie de trouver une pierre philosophale particulière, mmh. qui était la pierre philosophale non pas de l'immortalité, mais du sens. Et je pense que Péladan et d'autres avec lui l'ont fait à la fin du 19e siècle, et en ce début de 21e, on assiste à quelque chose de cet ordre-là. Le 20e, finalement, siècle a été tenu par les idéologies. On pouvait, si on n'était pas catholique, on pouvait être marxiste, on pouvait être fasciste. On ne peut plus être fasciste, on ne peut plus être communiste, on ne peut plus être... Oui, enfin, très difficilement. C'est-à-dire que c'est quand même un petit peu... C'est une proposition qui fait nettement moins mouche. Donc on essaye de se cramponner à ce qu'on peut en se raccrochant à des débris de sens, à des petits morceaux, à un espèce de conglomérat. Alors un mélange de ci, de ça, de briques, de brocs.
On appelle ça le syncrétisme ou la fusion aujourd'hui.
Merveilleux.
On se bricole son univers. Oui,
avec un nuage de coke.
Voilà, exactement. À la carte.
Alors, un nuage de coke et beaucoup de trafic de coke et aussi la mafia. Alors, Franck, il a quand même un idéal. Cet idéal s'appelle la pureté. Dites-nous ce que Quentin Mouron ou Franck entendent par pureté.
Je pense que c'est quelque chose d'assez... on le fait ressentir au fil des pages. Franck ne le définit pas. Il se balade. Alors, une fois, la pureté, c'est un beau jeune homme intelligent. Une autre fois, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ça peut être... Donc, je pense que Franck se rattache à quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'il le dit à un moment. C'est un mot qui a perdu son sens. C'est un mot qui est trop... Ou finalement, je n'ai plus exactement la formulation, mais c'est un mot qui est trop gros, en quelque sens. C'est un mot anachronique, un mot qui n'existe... Enfin, non, le signifiant est inexistant. Donc on ne peut pas le trouver, c'est vraiment un idéal, une sorte de paradis perdu vers lequel Franck, de temps en temps, sortant la tête des toilettes où il tire sa drogue, regarde ce paradis perdu et se dit voilà, c'est là où j'ai envie d'aller, c'est la pureté, j'ai envie de me diriger vers quelque chose de plus pur, quelque chose peut-être qui me protège, quelque chose qui permet de suspendre le temps.
Et l'angoisse, apparemment.
Et l'angoisse, voilà, ouais. Exactement, puisque voilà, le temps est synonyme justement d'angoisse, de crainte, de peur d'être tué aussi, et de dépendance. Donc c'est quelque chose qui va permettre de suspendre tout ça, tout ce déroulement tragique, et puis offrir une bouffée d'air frais. Et je pense qu'il le trouve chez le jeune flûtiste qui l'aborde. Mmh. Il pense l'avoir trouvé. En même temps, il sait bien que ça va certainement périr.
Parce que le flûtiste est très beau, il est bon musicien, et au premier abord, il a l'air très intelligent. Oui. C'est ça aussi.
Voilà, c'est ce qui plaît.
En plus.
Voilà, exactement.
Ah, en hauteur.
Exactement. Voilà, c'est vraiment, c'est se tourner vers la, c'est prendre de la hauteur.
Et ça, ça ne peut que ce que c'est la gueule.
De la lunette des WC. Et ça peut que ce que c'est la gueule.
Mais ce n'est pas Joseph Péladan que vous avez mis en exergue, en épigraphe à votre livre, Quant à Mouron. C'est Dostoïevski que vous semblez avoir bien lu aussi. Notamment cette citation. Lorsque l'homme perd tout but et tout espoir, il n'est pas rare que par pur ennui, il devient un monstre. Ouais. C'est une mise en garde.
Je pense, et puis c'est une mise en condition pour le livre, à mon avis. C'est vraiment, je pense que c'est bien, on lit pas assez souvent les citations qui introduisent le livre, ouais. On a tendance à passer outre.
Et ce qui fâche par-dessus tout, Franck, c'est que la cocaïne ne soit pas pure, justement.
Alors je crois qu'on a bien dessiné le profil de Franck, il faudrait quand même qu'on s'attarde.
Ah, pas complètement, continue à lire.
Non, mais c'est un roman noir, donc on va pas tout dire non plus.
Ah, bah justement, oui.
Il est temps de se préoccuper quand même de dessiner un peu les contours de l'autre flic, flic un peu plus solaire, enfin un peu plus... Un bon flic, disiez-vous tout à l'heure, Annick.
A priori,
le shérif McCarthy.
Oui, certainement bon flic. Il a un idéal de vie, lui. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Disons que c'est accessible. Il a un idéal professionnel. Pour lui, la famille et l'église avec est un socle, un refuge. Et il tente de préserver cette famille, sa femme, ses deux filles, des vicissitudes du monde. Alors, nous allons le retrouver là, chez lui, devant sa télévision.
That's Life commence. McCarthy ferme les yeux. Il songe à sa femme, à ses filles, à sa vie ici au 52 Peacock Street. Ensemble, ils forment une cellule de résistance contre l'extérieur, contre les tarés qui tuent, qui mutilent, qui volent des langues, contre la gratuité, contre le délire. Ici, tout est fondé, justifié, raisonnable. Ce n'est pas une construction froide dictée uniquement par les convenances et la religion. Au contraire, cette structure est chaude de l'amour que se portent ses membres. Mais si cette stabilité était une illusion, combien de temps la cellule familiale peut-elle se maintenir face à l'adversité, avant d'être balayée par une tempête ? Cette tempête sera-t-elle intérieure comme celle qui jadis a balayé le ménage tranquille que formaient ses parents ? Et si l'un de ces tarés décidait de se venger, qu'il entrait dans la maison du shérif et qu'il s'en prenait à sa femme, à ses filles ou à lui-même? Sans songer à ce cas de figure extrême, le noyau familial se remet en jeu tous les jours. Lorsqu'ils sont assis à table, comme hier soir, ils forment bel et bien une famille. McCarthy est le père, Charlène la mère, Paola et Anna les enfants. Mais que McCarthy aille travailler et il n'est plus père, il est shérif. Que les filles aillent en cours, ce sont des écolières. Ce qui menace la cellule familiale, songe McCarthy, ce n'est pas tellement que les homos s'épousent, pas tellement que le mariage soit vu comme un engagement factuel servant à régler des questions d'impôts et d'héritage, pas tellement que de boiteuses théories du genre se propagent depuis des universités jusqu'aux ramifications de la vie quotidienne. Non. Ce qui la menace, c'est tout ce qui en déforme les composants, faisant de McCarthy un flic plutôt qu'un père, de Charlène une secrétaire à temps partiel plutôt qu'une mère aimante, de Paola et sa sœur de futures amantes, mères et citoyennes. Alors que That's Life se termine, le shérif a les larmes aux yeux. Il voit un écriteau à vendre dans le jardin de sa maison, il voit ses filles lui échapper, sa femme ailleurs au diable. Est-ce qu'on ne pourra pas toujours rester ensemble ? Sans sa famille, sans sa maison, au milieu de la nuit, c'est le sol qui s'amollit, devient mouvant, et s'ouvre sur le gouffre qu'il a passé sa vie à éviter. Tant de voisins, de connaissances, d'amis y sont déjà tombés. Et ce qu'il ramasse tous les jours au Bellams, sans l'ordre d'une situation domestique stable, McCarthy se s'est perdu. Beaucoup de flics n'ont plus que leur job. C'est même un thème récurrent du polar contemporain. McCarthy, lui, n'a plus que sa famille. Il sait que pour Jaspers, par exemple, il n'en va pas de même. Pas de même non plus pour Hendrix. Mais quant à lui, il aimerait que sa vie soit plus dense qu'une illusion, plus stable, appelée à durer. Alors que « It could happen to you » commence, son téléphone vibre. Jaspers. Bonjour, shérif.
Fairy tale. dreams can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart.
It Could Happen to You est une comédie cinéma qu'on a pu découvrir sur les écrans, si je me souviens bien, au début des années 90. Quentin Mouron, vous n'étiez pas très âgé en ce temps-là. Un film signé Andrew Bergman. Et on y entend la voix de Frank Sinatra qui chante Young at Heart. Et ce n'est sans doute pas un hasard si votre shérif s'apprête à regarder ce film qui met en scène un agent de police un peu bousculé par le destin. C'est une mise en abîme ?
Oui. Oui, il y a peut-être quelque chose de... Oui, c'est peut-être une manière de mise en abîme, ouais.
Annick.
Mise en abîme de la littérature aussi. Vous faites intervenir, on n'en a pas parlé, un romancier. Il écrit des polars, je crois.
Exactement,
lui aussi.
Romancier.
Alors,
de polars.
Rappelez-moi, il s'appelle James.
Elzor. Elzor, pardon.
Tiens, vous allez dire Elroy, peut-être. James Elroy, qui est aussi un roman de...
Non, moi je pensais plutôt à Ellery, qu'on confond à Elroy sur les rayons, qui est à mon avis nettement moins bon, un peu plus cliché. C'était lui qui avait été, sauf erreur, surpris en train de rabaisser brutalement les publications de gens qui vendaient pourtant beaucoup moins que lui et d'encenser ses propres livres sur Internet. Enfin, c'était un truc sur des sites, bien sûr, de manière anonyme, sur des sites de vente. Donc, je l'ai repris, je me suis inspiré de ce personnage pour en faire quelque chose de tout à fait différent. Je crois qu'Ellery est anglais, lui est américain.
Vous interdisez, évidemment, ce genre de comportement.
Oui. Exactement. Alors, je les rabaisse, mais en mon nom propre, je me cache pas sous des pseudonymes.
Mais parler de littérature et lancer des piques, enfin, gratter, c'est quand même votre style, plutôt que de discuter philosophiquement pendant des heures sur un sujet. Ça vous plaît de piquer comme ça la littérature, de questionner?
Oui. Bien sûr, ça fait partie. C'est normal. Je crois que un employé des postes aime bien se foutre la gueule du chef des postes de temps en temps. Moi, j'aime bien moquer du milieu littéraire. J'aime bien, parce qu'il y a des choses. Dans tous les milieux, il y a des travers, il y a des choses dont on a envie de se moquer. Et j'aime beaucoup le faire. Je le fais avec grand plaisir et avec verve parfois. Quand il s'agit du milieu littéraire, quand il s'agit des éditeurs, quand il s'agit des auteurs, quand il s'agit des journalistes, c'est quelque chose de drôle. On voit des choses très drôles quand même. Et j'aime, en effet, ça ressort dans mes textes. Alors là, c'est de manière en plus particulière parce que c'est très centré sur le polar quand même, où il y a aussi là des choses qui me font parfois rire, des choses très clichés comme ça qui moi me font marrer. Et évidemment, ce personnage d'Elzor, de romancier vulgaire, comme ça, reprend tout ça à son compte.
Égocentrique, et il a tellement peur de ne pas être connu. Comment vous appelez déjà? À Quentin Mouron.
Oui, voilà, exactement. Moi aussi, j'ai très peur, mais je ne le dis pas.
Vous vous amusez, on le sent, vous vous aimez. En même temps, c'est très sérieux. Enfin, j'ai le sentiment que l'écriture, c'est quelque chose... Enfin, sérieux, ce n'est pas un mauvais mot, hein, évidemment, hein, d'ailleurs. Très sérieux.
Mais le rire peut être très sérieux.
Voilà,
aussi.
Notre-Dame de la Merci, j'en ai gardé, alors peut-être je devrais le relire, mais un souvenir quand même, évidemment, comment dire, plus remuant, je dirais, sur ce qui se passe, plus... Et celui-là, plus drôle et plus caricatural.
Plus joueur, peut-être.
Plus joueur, voilà, c'est exactement peut-être. La question que j'allais vous poser par rapport à l'écriture. Plus rigolo à écrire?
Pas beaucoup plus, en fait. C'est-à-dire que celui-là est aussi un contenu, se nourrit aussi d'un contenu peut-être plus philosophique aussi, plus métaphysique aussi, qui filtre à travers des discussions qui sont souvent présentées sur le ton du Grand Guignol. Donc forcément, ça a l'air très drôle, mais quand on mène une discussion profonde, on n'est pas en train de se marrer, même si le résultat semble amusant. Donc je pense que pour arriver à cette drôlerie.
Avoir l'air léger,
voilà,
être drôle et dire des choses profondes, c'est aussi difficile que les dire directement.
Voilà, exactement. Je crois que Céline disait pour avoir l'air d'écrire spontanément, il me faut au moins 6 versions. Donc je crois que c'est un peu pareil. Là, on est le sentiment qui ressort, qui domine, n'est pas forcément celui qu'on a à l'écriture. Par contre, je pense qu'en effet, j'espère que les lecteurs, s'ils le trouvent drôle, tant mieux. S'ils le trouvent profond, tant mieux. Si ça les interpelle, s'ils ont envie d'aller jusqu'au bout, s'ils sont pris par le suspense, c'est bien.
Un livre peut être divertissant et profond, on va le dire.
Oui, je pense que c'est d'ailleurs grand canon du XVIIe siècle et puis de tout le classicisme français. Et puis je pense que c'est bien ça, oui. Je pense qu'il faut vraiment... Moi, je ne suis pas du tout contre le divertissement. Je ne sais pas qu'un livre doit être le plus difficile possible pour être le plus intéressant possible. Au contraire, il y a des choses très légères, qui semblent légères, très divertissantes, qu'on a envie de lire d'un bout à l'autre et où on a envie de tourner les pages et où quand même, on a quelque chose qui reste en nous. Et c'est quelque chose qui s'accroche, je crois que c'est le contenu.
Alors, je vous avouerai que j'ai repris le livre... Une deuxième fois, je ne l'ai pas relu, mais j'ai regardé, je me suis dit, mais des choses m'ont intriguée à la fin et je suis revenue en arrière. Donc c'est exactement ce que vous dites. J'ai une toute petite question, toute bête. Paul McCarthy, votre flic. Le nom a été choisi à cause du...
gouverneur
Non, il ouais, bah, y a un Paul McCarthy qui est surtout plasticien.
Non, j'avais pas pensé.
Vous avez un inconscient immense.
Je pensais plutôt à Cormac McCarthy. Puis voilà. Enfin, les noms sont mis un peu en. C'est pas quelque chose à quoi j'apporte énormément d'importance. Les noms et prénoms des personnages normalement. Il y en a, je sais pour qui c'est vraiment. On déroule une boîte. Mm-hmm. C'est une boîte de Pandore qu'on ouvre chez moi. C'est pas le cas.
Dernière question d'ordre stratégie littéraire et éditoriale. Quant à Mouron, vous n'auriez pas mieux fait de publier ce livre à la rentrée littéraire en septembre, d'ici quelques mois, histoire de figurer éventuellement sur une liste de prix ou une autre ?
On peut déjà être sur la liste de prix en tout temps, en fait, il n'y a pas de règles.
Participer à cette grande effervescence de la rentrée littéraire.
C'est un petit peu plus difficile, c'est tout.
Peut-être, et je crois que ça correspondait, là, je crois, au besoin. La Grande Ours a certainement aussi des livres à sortir en septembre, ça tombait bien. Moi, c'était bien aussi, je n'ai jamais fait de sortir le livre en juin, ils ont toujours paru plutôt pour la rentrée littéraire, justement. Mmh. Et moi, c'est vrai que ça m'arrangeait aussi à titre personnel, et puis je trouve que c'est pas mal.
Un polar d'un Suisse édité en France à la rentrée littéraire, ça nous rappelle une belle histoire passée. Rappelez-vous, Joël Dicker.
Oui. Oui.
Carton. Je suis toujours fasciné par votre faconde. Quant à Mouron, merci infiniment. On ne va pas en dire plus. Et puis on va laisser le plaisir à nos auditeurs de se plonger dans votre dernier roman. Il est intitulé 3 gouttes de sang et un nuage de coke. Et il a paru à La Grande Ours. Bel après-midi.
Merci à vous. Bonne journée.
Entre les lignes vous était proposé par Annick Chuin, les lectures étaient assurées par Guillaume Prin, la diffusion régie Gilles Ozaman, assistance à la production Madeleine Techer, une production signée Jean-Marie Félix à retrouver sur la page internet de l'émission. Vous y parviendrez en tapant rts.ch/entre-les-lignes. Je vous retrouve demain après les infos de 11h avec William Irigoyen. Nous recevons Anne Lemieux, auteur d'un roman paru aux éditions Serge Safran, Les Retranchés, tel est son titre. Vous écoutez Espace 2, il est très exactement midi.